Vous écoutez France Culture. Tout de suite, c'est le journal présenté par Antoine Maret. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le retour de l'impôt sur la fortune n'est plus un tabou au sein du gouvernement. Les déclarations en ce sens se multiplient depuis ce matin. Seront-elles en mesure d'apaiser la colère des gilets jaunes? Décryptage dans ce journal.
Et l'autre mobilisation croissante qui inquiète le pouvoir, Antoine Maret, c'est celle des lycéens. 200 établissements sont bloqués et le ministre de l'Éducation nationale fait part de sa préoccupation face aux violences qui accompagnent ces blocages.
L'invité du journal sera le député vice-président de Les Républicains, Damien Abad. L'opposition ne semble pas profiter des difficultés auxquelles fait face le gouvernement. Il nous expliquera la position de son parti sur ce mouvement des Gilets jaunes.
Dans votre édition également, gros plan sur la 40e édition des Transmusicales de Rennes, avec toujours la même recette qui marche, le défrichement de nouveaux artistes.
Midi 55, seconde partie de la Grande Table, avec au menu Olivia.
Aujourd'hui, nous recevons le général de Villiers. Qu'est-ce qu'un chef? C'était presque un titre prémonitoire. Nous allons donc parler ensemble de l'incarnation de la fonction, mais aussi de l'autorité. Qu'est-ce qu'une autorité juste? Rendez-vous à partir de 12h55.
On vous retrouve dans 23 minutes. Après le gel de la hausse des taxes sur l'énergie pour 6 mois, le gouvernement tend une nouvelle fois la main aux gilets jaunes. Cette fois, c'est le nouvel impôt sur la fortune immobilière qui est sur la sellette, le remplaçant de l'impôt sur la fortune, tout un symbole. Selon le porte-parole du gouvernement, le nouveau dispositif sera évalué à l'automne prochain. Benjamin Griveaux ajoute, si quelque chose ne marche pas, on n'est pas idiot, on va le changer. D'ici à dire que le gouvernement pourrait rétablir l'ISF, il n'y a qu'un pas que Marlène Schiappa franchit. La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes affirme qu'elle est prête à proposer de rétablir l'ISF si les évaluations du nouveau dispositif qui le remplace ne sont pas concluantes. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Depuis hier, on assiste à une série de rétro-pédalages du gouvernement. Objectif: apaiser la colère des gilets jaunes.
Oui, apaiser la colère certainement, mais surtout esquisser un chemin de sortie de crise. Le problème, c'est que ce midi, ce chemin, il ne s'ouvre pas. D'un côté, le gouvernement qui a l'impression de lâcher, et beaucoup, la suppression pour 6 mois hier de 3 mesures fiscales, dont l'emblème de la taxe sur les carburants. Et puis ce matin, sur RTL, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a aussi rappelé qu'une évaluation était prévue pour l'impôt sur la fortune immobilière qui remplace l'ISF depuis décembre 2017. Une évaluation qui pourrait commencer dès la fin de l'année.
Si l'évaluation n'est pas la bonne, là le sujet pourrait être rouvert. Si une mesure qu'on a prise, qui coûte de l'argent public, mais qu'on a prise parce qu'on est persuadé que ça va marcher, ne fonctionne pas, si quelque chose ne marche pas, on n'est pas idiot, vous voyez, on va le changer.
Une évaluation qui évidemment ne va pas se faire du jour au lendemain et qui doit s'inscrire dans un cadre parlementaire, a insisté Benjamin Griveaux. Ce cadre de la démocratie représentative qui semble si loin des gilets jaunes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, des gilets jaunes qui dénoncent des mesurettes et qui préparent l'acte 4 de leur mouvement, comme l'a expliqué hier Éric Drouet sur une chaîne de télé. Éric Drouet, l'initiateur de l'appel du 17 novembre.
C'est malheureux, mais oui, on est obligé d'aller manifester notre mécontentement. C'est le seul moyen de montrer quasiment tous les gilets jaunes ne sont pas du tout d'accord avec ces mesures annoncées. Et de toute façon, ça continuera tant qu'il n'y aura pas de réel changement.
Réaction qui donne l'impression que ces deux fils, l'un tenu par l'exécutif, l'autre par les manifestants, les gilets jaunes, et bien que ces deux fils s'éloignent plus qu'ils ne se rejoignent. Il faut retrouver les conditions d'un débat apaisé, a dit hier le nouveau délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini. Mais on voit bien que la réaction tardive du gouvernement à radicaliser les gilets jaunes, tout comme certains députés qui arrivent complètement échauffés à l'Assemblée nationale pour le débat de 3h30 organisé cet après-midi. Un débat dont on verra s'il fait émerger au moins quelques solutions pour sortir rapidement le pays de cette crise.
Merci Anne Fauquemberg. Une autre mobilisation qui inquiète le pouvoir, même si elle n'a pas de rapport avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est celle des lycéens. Depuis plusieurs jours, ils bloquent de nombreux établissements, on en est à 200. Ils s'opposent aux réformes du bac et du lycée, à la plateforme d'accès aux études supérieures Parcoursup et à la création du service national universel. Et le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse a fait part ce matin, chez nos confrères de France Info, de son inquiétude. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Antoine Maret.
Pour Jean-Michel Blanquer, ça n'est pas la mobilisation qui est préoccupante. Seuls 5% des lycées sont bloqués, mais c'est la violence qui accompagne ces blocages.
Une violence qui exprime le ras-le-bol de la jeunesse, estime Louis Boyard, le président de l'UNEL que nous avons joint ce matin. Le leader syndical demande au ministre de l'Éducation de revenir sur ces mesures s'il veut que les lycéens arrêtent de bloquer les établissements. À commencer par Parcoursup, discriminant selon eux, car la nouvelle plateforme d'inscription pour le supérieur va défavoriser les élèves issus des quartiers défavorisés au profit des lycéens des grandes villes, notamment des grands établissements cossus, mais aussi le nouveau bac. Ils demandent l'annulation du contrôle continu qui va compter pour 40% de la note finale. Et là aussi, il y aura des inégalités selon les syndicats de lycéens, car les épreuves ne seront pas nationales. Il y aura des sujets différents dans chaque établissement pour le contrôle continu. Autant de revendications qui ne légitiment pas la violence, selon Jean-Michel Blanquer, qui était ce matin chez nos confrères de France Info.
Ce qui est inquiétant, c'est pas le nombre, c'est qu'on est dans des formes complètement différentes de tout ce qu'on a pu connaître par le passé, avec une violence que l'on n'a jamais vue. Alors que le mouvement vient d'arriver, il est d'emblée extrêmement violent. On voit bien qu'aujourd'hui, comme dans les manifestations de samedi dernier, il y a des gens qui n'ont plus de limites. La révolte des Gilets jaunes n'a aucun rapport avec les réformes scolaires. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a simplement des forces qui essayent de profiter de la situation pour enclencher des mouvements. Plutôt que de sombrer dans je ne sais quelle excitation générale, j'appelle à une grande sérénité. Si on veut le bien de la France, on arrête ces choses qui en ce moment sont exploitées par les plus extrémistes et les plus violents.
L'UNEL sera reçue dans une heure par le cabinet de Jean-Michel Blanquer, rue de Grenelle, mais sans le ministre de l'Éducation qui ne sera pas présent. C'est là peut-être un mauvais signal pour commencer d'éventuelles négociations.
Merci à Kim Kasmi. Les lycéens et maintenant les routiers. Les fédérations CGT et FO appellent à la grève à partir de dimanche soir pour une durée indéterminée. Comme les Gilets jaunes, ils veulent défendre le pouvoir d'achat. Ils qualifient de miettes les mesures annoncées hier par le Premier ministre. Bonjour Anne Lorchois.
Bonjour Antoine.
Et au mécontentement des routiers s'ajoute également celui des agriculteurs.
Oui, on devrait connaître dans les prochaines heures la date et la forme que prendra cette mobilisation des agriculteurs qui partagent en partie les préoccupations des Gilets jaunes sur le sujet du gazole, mais plus généralement sur celui des taxes. Il y a quelques semaines, la FNSEA, syndicat majoritaire dans la profession, estimait qu'à travers la colère sur le carburant, c'était aussi le ras-le-bol des territoires ruraux qui s'exprimait, la FNSEA qui appelait solennellement le gouvernement à se hâter de publier les ordonnances de la loi alimentation censée redonner un peu de souffle aux rémunérations des agriculteurs. Sur ce point, ils vont être déçus après l'annonce hier du report de ces ordonnances. Au début de l'année prochaine, la colère n'est que plus grande. Dans certaines régions, les tracteurs sont déjà aux côtés des Gilets jaunes. C'est le cas en Eure-et-Loire, par exemple, à l'appel des jeunes agriculteurs. Dans d'autres régions, le monde agroalimentaire souffre plutôt des blocages qui empêchent parfois le travail. Et puis, il y a les routiers, vous l'avez dit, qui, malgré le recul du gouvernement sur la vignette notamment, sont appelés à la grève dimanche soir, à l'appel donc des fédérations CGT et FO, pour défendre le pouvoir d'achat. C'est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement, car en matière de blocage, ils ont la capacité matérielle, en tout cas, d'intensifier fortement le mouvement. Là encore, les revendications sont à la fois communes et particulières. Le secteur routier proteste aussi contre une décision du Conseil d'État qui annule la majoration des heures supplémentaires. Les ambulanciers, également de leur côté, continuent leur mobilisation amorcée il y a plusieurs semaines, mais sans se mêler aux Gilets jaunes. Enfin, le secteur du BTP est entré dans la danse également pour conserver le gazole non routier, le GNR, détaxé pour les entreprises du secteur. Malgré les récentes décisions gouvernementales, on assiste donc à ce qui ressemble à une inflation des revendications.
Invité de ce journal, Damien Abad, bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes député, vice-président de Les Républicains. Vous êtes dans l'opposition. Le gouvernement est en grande difficulté. Mais on a l'impression que c'est la classe politique dans son ensemble qui est montrée du doigt par les Gilets jaunes, malgré les tentatives de récupération ici et là, y compris chez vous.
Je crois qu'il faut ni indifférence, ni récupération politique. Parce que oui, effectivement, il y a un rejet de la classe politique dans son ensemble, à laquelle s'est ajoutée une colère sociale très forte, parce que les Français ont le sentiment de ne plus pouvoir boucler leur fin de mois aujourd'hui, tellement le niveau des taxes est élevé. Et donc, il y a un ras-le-bol fiscal, il y a une colère sociale, il y a aussi un sentiment de déclassement, pas une réalité aussi de déclassement, des classes moyennes. Et donc, face à cela, il nous faut ni indifférence, ni mépris, ni condescendance, que le gouvernement malheureusement a parfois eu, ni tentative de récupération, d'abord parce qu'elle serait vaine, et ensuite parce que ça ne serait pas à la hauteur des enjeux de notre pays.
Question de Stéphane Robert, chef du service politique.
Est-ce que vous êtes allé discuter avec les Gilets jaunes? Est-ce que vous réussissez à engager le dialogue? Et qu'est-ce qu'on vous dit?
Oui, je suis député de l'Ain. J'ai reçu plusieurs délégations des Gilets jaunes. Je me suis rendu aussi sur des points de barrage dans mon département. Et le dialogue est possible. Alors les revendications sont multiples, elles sont variées. D'abord, il y a une colère sur le ras-le-bol fiscal. Et donc, ils attendent des gestes forts sur le pouvoir d'achat. La première des revendications, c'était l'annulation des taxes sur les carburants. C'est pour ça qu'on peut regretter aujourd'hui que cette suspension, qui ne fait que reporter l'échéance, n'est pas à la hauteur des enjeux. Ensuite, il y a aussi, il faut le dire, un ras-le-bol par rapport à un système politique dans lequel ils ne se sentent pas représentés. Il y a une crise de la démocratie représentative qui fait qu'ils ont le sentiment, finalement, de ne pas être écoutés. Et c'est pour ça qu'ils ont mis les gilets jaunes.
Est-ce qu'on vous le reproche à vous, ça aussi, de pas les écouter, de pas les avoir écoutés les années auparavant?
Beaucoup nous disent que certainement il y a eu une faillite du politique dans son ensemble, mais qui est polarisée quand même aujourd'hui par un gouvernement qui à la fois traduit son impuissance, mais surtout traduit son mépris par rapport à une France des territoires qu'il ne comprend plus parce qu'il ne la voit plus. Et donc ce dialogue, il est possible. On a eu, et j'ai eu moi-même des échanges avec ces gilets jaunes, et un certain nombre de propositions sur lesquelles on a échangé, certaines où je suis favorable, d'autres où je ne suis pas favorable, et on a pu le faire. Simplement, ils nous disent quoi ? C'est que la stratégie de pourrissement du gouvernement, elle a entraîné la radicalisation du mouvement. Et ils nous disent, faites quelque chose, parce que s'il ne se passe rien, eh bien, ce sont les personnes les plus radicalisées qui prendront la tête de ce mouvement.
Et, malheureusement, est déjà un peu le cas,
en tout cas. Ce qui est déjà malheureusement le cas, parce que on va arriver, malheureusement, samedi au quatrième samedi noir, comme on dit, et la réalité, c'est celle-là. Et donc, il y a vraiment le sentiment qu'ils n'ont pas été entendus, et que donc le terrain et le mouvement se radicalisent.
Est-ce que vous êtes inquiet de ce qui est en train de se passer ? Est-ce que Laurent Wauquiez, avec qui vous travaillez à la tête des Républicains, est inquiet également ?
Oui, bien sûr. Et puis surtout, nous sommes un parti de gouvernement. Donc nous avons une responsabilité. Et je veux le dire ici aussi, en tant que vice-président des Républicains, moi j'en appelle au calme et aux responsabilités de tout le monde. On ne gagne rien sur le chaos, ni politiquement, ni électoralement, ni socialement. Et que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on doit sortir de cette impasse, et la sortie, elle ne peut être que politique. Il faut une réponse politique. Et c'est là où je suis inquiet. Quand je vois l'intransigeance du Premier ministre, quand je vois finalement un président de la République qui apparaît tous les jours déconnecté, eh bien je me dis, il faut qu'ils entendent et comprennent que c'est pas à coup de petites mesurettes qu'on va sortir de cette impasse-là, mais c'est en ayant un plan d'action fort, concret, avec des mesures immédiates qui permettent tout simplement de redonner confiance aux corps intermédiaires dans notre pays.
Mais on voit bien que tous ces appels au calme, d'où que ça vienne, hein, sont finalement rejetés. On rejette la classe politique dans son ensemble, dans le camp des élites finalement, qui n'ont pas su répondre aux problématiques qui se posent aujourd'hui de façon criante avec ce mouvement des Gilets jaunes.
Oui, parce que si c'est un appel au calme sans réponse politique, on considérera qu'on met le couvercle sur une marmite en ébullition. L'appel au calme, il ne peut se faire qu'à la condition qu'on ait une réponse politique à la hauteur des enjeux. C'est cela qui permettra de sortir de ce climat de tension. Enfin, tout le monde a vu ces images, malheureusement, sur Paris, qui ont un effet dévastateur au niveau international, mais aussi sur le plan économique. Et beaucoup de chefs d'entreprise, d'artisans, de salariés, de commerçants nous alertent. Certains font leur chiffre d'affaires sur le mois de novembre et décembre. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir cette situation qui est dans un état apocalyptique et qui crée un climat de tension réel? Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et dans l'opposition avec Laurent Wauquiez, nous le disons très clairement, nous sommes prêts à prendre ses responsabilités. Si le gouvernement annonce l'annulation pure et simple des taxes, nous sommes prêts à dialoguer pour pouvoir sortir sur un plan de crise qui nous permettra, eh bien, d'apporter des réponses. Mais les réponses, elles doivent être aussi sur la politique, elles doivent être sur la fracture territoriale, qui est un sujet très important, et elles doivent être aussi, bien sûr, et d'abord sur le pouvoir d'achat.
Il y a un débat qui va avoir lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale sur ce qu'a proposé le gouvernement pour essayer de calmer un petit peu, d'apaiser la situation. Il y aura un vote à l'issue sur les propositions qui ont été faites. Qu'est-ce que vont faire les Républicains ?
Les Républicains voteront contre pour une raison très simple, c'est que on n'est pas la suspension, ce n'est pas une réponse. La suspension, c'est une mesure transitoire, et d'ailleurs François de Rugy l'a dit lui-même, il a dit c'est une pause, et on va reprendre ensuite le cap. Ce qu'attendent les Français, c'est pas qu'on fasse une pause et qu'on reporte les taxes et qu'on garde le même cap. Ce qu'ils attendent, c'est qu'on change la trajectoire et le cap pour comprendre que la transition énergétique, elle ne peut pas se faire dans l'injustice sociale et dans l'injustice fiscale. Et donc, il y a un enjeu qui n'est pas un enjeu de mesurette, qui est un enjeu d'un plan d'action très fort et très concret.
Qu'est-ce que vous attendez du débat cet après-midi ? Est-ce qu'il peut sortir des choses de ce débat à l'Assemblée ?
On verra bien. Moi, ce que j'attends, c'est plusieurs choses. D'abord, qu'on ait un gouvernement qui soit à l'écoute. Ensuite, c'est que notre opposition, nous sommes un parti de gouvernement avec une alternative républicaine, ne soit pas dans la surenchère. Parce que ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle, c'est ce que fait le Rassemblement National et la France Insoumise. Moi, je ne veux pas que la droite court après le Front National et la France Insoumise dans ses déclarations, dans ses prises de position et dans la surenchère. Pourquoi ? Parce que si on veut interner incarner une alternative républicaine crédible, alors il faut redonner de la confiance et alors il faut faire des propositions. Donc ce que j'attends, c'est pas des effets de manche, mais c'est qu'on ait des propositions et un vrai débat de fond. Parce que si ce débat il est raté, eh bien ça sera encore le rendez-vous avec les Français qui sera raté.
On verra cet après-midi. Merci beaucoup Damien Abad d'avoir accepté notre invitation dans le journal de France Culture. Et si ce mouvement des Gilets jaunes était l'œuvre de Donald Trump? Un moyen pour le président américain de punir Emmanuel Macron, lui qui a récemment défendu l'idée d'une armée européenne à la barbe des États-Unis. L'hypothèse peut sembler audacieuse, voire complotiste, et pourtant, elle est très sérieusement avancée par les médias gouvernementaux russes. À Moscou, la correspondance de Claude Brouillot.
Dans une Russie où toutes les manifestations non autorisées sont durement réprimées, les scènes de violence samedi dernier à Paris notamment ont donné l'occasion une nouvelle fois aux grands médias fédéraux de resservir la traditionnelle hypothèse du complot américain destiné cette fois en premier lieu à punir Emmanuel Macron. Qu'il s'agisse de la première chaîne de télévision Russia 1 ou de journaux proches du pouvoir comme Rossiyskaya Gazeta, la démonstration est la même. Pour avoir voulu prendre le leadership de l'Union européenne et annoncer la création d'une armée indépendante des options américaines, pour avoir soutenu contre l'avis de Washington l'accord sur le nucléaire iranien, eh bien le président français aurait commis l'irréparable. À l'appui de ce raisonnement, en vue de Moscou, le caractère totalement disproportionné entre des revendications contre une augmentation du prix des carburants et les scènes de violence et de pillage du week-end dernier. Pour la presse officielle russe, ça ne colle pas. L'Amérique tente donc d'exporter en France une révolution dite de couleur, comme elle l'aurait déjà fait en Géorgie ou en Ukraine auparavant. Mais la presse russe indépendante, celle-là, se pose d'autres questions, comme le journal Novaya Gazeta qui s'interroge « Jusqu'où le mouvement des Gilets jaunes en France va-t-il continuer à faire le jeu de Marine Le Pen ?» Sans avoir besoin de trop rappeler à ses lecteurs les liens qui unissent la présidente du Rassemblement National à un certain Vladimir Poutine.
Midi 47 sur France Culture. Depuis trois semaines, le pacte sur les migrations qui doit être signé à l'occasion du sommet de l'ONU de Marrakech les 10 et 11 décembre prochains, eh bien, ce pacte attise les passions politiques en Belgique et menace de faire imploser le gouvernement fédéral. La coalition gouvernementale au pouvoir depuis 2014 est tiraillée entre les partisans de ce texte, dont le Premier ministre Charles Michel, et les opposants, à savoir l'Alliance néo-flamande. La situation est de plus en plus tendue depuis la fin de la semaine dernière, au point d'avoir imposé la tenue d'un débat parlementaire à la Chambre des représentants hier et aujourd'hui même. À Bruxelles, on retrouve Pierre Benazet. Bonjour.
Bonjour, Tom.
C'est le vote de tous les dangers pour la survie de la coalition.
Oui, effectivement, parce que le Premier ministre Charles Michel a claironné hier lors d'une conférence de presse sa ferme intention d'aller au sommet de Marrakech, de signer le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, c'est le nom officiel de ce texte, qui chamboule vraiment complètement le paysage politique belge. Charles Michel estime qu'il s'est officiellement engagé au nom de la Belgique lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre. Le Premier ministre libéral estime par ailleurs qu'à ce moment-là, il avait le soutien des trois autres partis dans la coalition, c'est-à-dire les libéraux flamands, les chrétiens démocrates flamand et surtout le soutien tacite de la NVA, l'Alliance néo-flamande. Mais depuis, la NVA est sortie de son silence, elle a choisi de passer à l'offensive contre ce pacte d'immigration. Selon l'Alliance néo-flamande, c'est la porte ouverte à l'afflux de migrants clandestins vers la Belgique. La NVA fait le choix d'une ligne politique anti-immigration très dure, à tel point qu'elle a lancé hier sur Internet une campagne très vite retirée où le parti utilisait les images de migrants déjà utilisées par l'AFD en Allemagne. En gros, l'Alliance néo-flamande a choisi de s'opposer frontalement à ce texte parce que depuis l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, la situation politique interne a changé en Belgique. Lors des élections municipales d'octobre, tous les partis de la coalition ont perdu des plumes. Du coup, d'un côté, les libéraux francophones du Premier ministre Charles Michel ont choisi de s'éloigner de positions politiques jugées trop à droite par l'électorat, alors que pendant ce temps, la NVA faisait exactement le contraire. Le résultat, c'est que ce pacte de Marrakech menace la survie même de la coalition gouvernementale, à tel point que le Premier ministre a demandé au Parlement de voter, ce qui en soi pourrait faire chuter le gouvernement, parce que la NVA estime qu'avant de signer le pacte de Marrakech, le Premier ministre doit de toute façon disposer de l'aval de tous les partis de la coalition.
Mais ce pacte ne divise pas seulement la Belgique. Ailleurs en Europe, c'est une certaine confusion qui règne.
Oui, effectivement, on peut regarder une carte de l'Europe et elle est assez nette. Les pays signataires sont majoritaires, surtout des pays d'Europe de l'Ouest et du Nord. Mais en Europe centrale, surtout, beaucoup de pays ne vont pas signer ce texte, à peu près une demi-douzaine, de l'Italie à la Pologne, en passant par les autres pays du groupe de Visegrad, les Tchèques, les Slovaques, les Hongrois, mais aussi les Autrichiens, les Hongrois et les Slovaques. Bref, ce texte sur le pacte des migrations ne fait pas du tout l'unanimité au sein de l'Union européenne.
Merci à vous, Pierre Benazet. Le ministre britannique au commerce, Liam Fox, redoute que la Chambre des communes parvienne à bloquer une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour lui, ce serait un affront démocratique. C'est ce qu'il a expliqué lors d'une audition devant une commission parlementaire. Liam Fox réagissait à deux votes intervenus hier soir au Parlement britannique où les députés ont estimé que le gouvernement de Theresa May était coupable, je cite, d'outrage au Parlement, et ceci pour avoir refusé de publier la totalité de l'avis juridique sur le projet d'accord de sortie de l'Union européenne. L'adoption de cette motion est intervenue au premier jour du débat parlementaire sur le projet d'accord négocié avec les Européens, projet qui doit se conclure par un vote le 11 décembre prochain. Retour à l'actualité française avec ce rassemblement ce matin à Marseille, un mois après l'effondrement de deux immeubles qui avaient fait 8 morts. 200 personnes étaient sur place et parmi elles, aucun élu, aucun officiel, seulement des Marseillais brassards noirs au bras. Reportage sur place d'Olivier Martoc.
La cérémonie est totalement improvisée. Les immeubles effondrés sont à 50 mètres devant une devanture de magasin fermée. Des bougies, des fleurs fanées et des portraits de victimes.
J'ai observé 8 minutes de silence à la mémoire des 8 victimes du drame du 65 rue d'Aubagne.
Je veux remercier Marseille d'être solidaire avec nous. Mais le Marseille d'en bas, pas celui d'en haut. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, à chaque hommage qu'on leur a rendu, c'est le peuple marseillais qu'on a trouvé avec nous. Et merci à tout le monde d'avoir fait le déplacement aujourd'hui, de ne pas les avoir oubliés. Merci beaucoup.
L'émotion des participants est réelle. Il y a beaucoup de colère aussi.
On n'a eu que du mépris. Maintenant, oui, je dis la mairie ne m'a pas aidée. Je ne les remercie pas. Je remercie les pompiers, la police. C'est des gens qui ont travaillé H24 sous la pluie, sous la grêle. Il y avait la mairie sous la pluie, sur la grêle.
Et plus généralement, un sentiment d'injustice.
C'est bien pour ça qu'on a fait ça. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui prend le relais sur la question du deuil. On a l'impression d'être effectivement très seul dans la douleur du quartier, dans le traumatisme qu'on vit tous les jours, avec ces familles qui ont perdu des gens. Avec ces familles qui ont tout perdu. Avec cette impression quand même que les choses, elles avancent pas, quoi.
Quand il y a des drames et tout ça, c'est pas les hommes politiques qui viennent, hein, qui sont pas là. On est des pauvres. Et les pauvres, on les soutient pas. On les écrase.
Samedi, 12 000 Marseillais sont allés crier leur colère sous les fenêtres de Jean-Claude Gaudin. Ils étaient 6 fois plus qu'à la manifestation des Gilets jaunes. Un mois après le drame, la colère ne retombe pas.
La 40e édition aujourd'hui des Transmusicales de Rennes jusqu'à dimanche. Le Festival des Musiques Actuelles accueillera 60 000 festivaliers pour une centaine de spectacles de musique et de danse dans le centre et le parc des expositions de Rennes. Cette année, un tiers des artistes sont des Africains encore inconnus en France. Et le défrichement de nouveaux artistes, c'est ce qui continue à faire le succès de ce festival subventionné à 50%. Reportage Cécile de Carvastoué.
Dans la note d'intention de 1979, les fondateurs du festival promettaient, je cite, « de défendre une autre idée de la musique que celle dont on cherche à gaver le public ». Parce que la musique, écrivait-il encore, doit être un appel à la conscience de chacun. Les mots peuvent avoir l'air datés. Aujourd'hui, les transmusicales n'ont plus comme unique objectif de faire jouer la scène rennaise à Rennes. Le festival, subventionné à 50%, est bien installé. Et pourtant, il ne renie pas ses idéaux de départ, explique Béatrice Massé, cofondatrice et codirectrice des Transmusicales.
On a été fidèles à nos idéaux de post-adolescents. Une volonté que les gens puissent vivre leur vie culturelle comme ils en ont envie et qu'ils aient un rapport à la musique qui soit effectivement le résultat d'un choix. Pour faire un choix, il faut plusieurs propositions. Mais aujourd'hui encore, c'est pas si évident que ça, quoi. En tout cas, il y a une tendance à l'uniformisation. Aujourd'hui, même avec Internet, le critère principal qui est utilisé pour le choix, c'est le nombre de clics. Mais ça n'a jamais été un critère de qualité, la quantité. Nous, ce qu'on essaye, c'est d'apporter un témoignage qu'il y a beaucoup plus de chemin pour aller vers la musique que simplement d'écouter un CD, que d'écouter un truc en streaming, que ce qu'on nous propose actuellement, que je trouve un peu réducteur puisque c'est le chemin plus de la consommation, quoi. Le concert, c'est pour moi le moment privilégié du rapport à la musique. C'est pas un produit, c'est une œuvre en train de se faire.
D'où les multiples actions socioculturelles et pédagogiques qui accompagnent le festival encore aujourd'hui. Un objectif d'ailleurs brandi dès 1979 par les fondateurs, aux côtés d'une autre phrase qui, elle, en revanche, n'a pas résisté au temps : faire le choix de la libre participation financière et de l'autogestion des concerts.
Un puissant séisme de magnitude 7,5 a frappé le large de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, l'alerte au tsunami a été levée. On ne compte ni victimes ni dégâts. Cet après-midi, la France sera coupée en deux. Au nord de la Loire, temps couvert, voire pluvieux sur le Cotentin et la Bretagne. Au sud, du soleil, température toujours au-dessus des normales saisonnières. 9 degrés à Dijon, 13 à Paris, 17 à Nice. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 18h avec le retour d'Aurélie Kiefer.